Drainville PM. Politique.
Et moi, ce que je propose aux Québécois, c'est un gouvernement et un premier ministre qui va rassembler les Québécois, qui va pas les diviser, qui va les rassembler. On va gouverner, bien sûr, pour tous les Québécois et toutes les Québécoises. Ceux et celles qui ont voté pour le Parti libéral du Québec, aussi celles et ceux qui ont voté pour la CAQ, qui ont voté pour le PQ, qui ont voté pour Québec solidaire, puis même ceux et celles qui, malheureusement, ont décidé de ne pas aller voter. Et c'est ça également la proposition qu'on met de l'avant. Parce qu'une campagne électorale, ça a un début, puis ça a une fin. Et ensuite, il faut reprendre le progrès du Québec sans l'interrompre. La seule façon qu'on va pouvoir progresser ensemble au Québec, c'est de rester unis.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Ça, c'est un extrait que vous venez d'entendre, un extrait de la dernière publicité du Parti libéral. Vous avez bien compris que c'était Philippe Couillard qui vous parlait. La CAQ a fait la même chose. Le Parti québécois également a fait la même chose. J'imagine que Québec solidaire le fera ou l'a déjà fait aussi. Qu'est-ce que tu veux? Ils jettent dans la mêlée leurs derniers arguments pour essayer de vous convaincre d'obtenir votre appui pour lundi. Pour discuter de tout cela, de ces dernières heures, Paul Journet, éditorialiste à la presse. Bonjour Paul.
Salut Bernard.
Carl Bélanger, consultant en communication stratège. Bonjour Carl.
Bonjour messieurs.
Paul, allons-y donc avec ce retour sur la campagne que tu nous proposes.
Oui, ben, tu te souviens, depuis quelques mois, on dit, puisque le Parti québécois ne propose pas de référendum sur l'indépendance, ben, la question nationale sera en veilleuse et le Québec va avoir une campagne électorale qui ressemblera à celle qu'il y a dans d'autres provinces, d'autres pays, une campagne axée sur le clivage gauche-droite, mais en fin de campagne, on remarque que c'est pas ça qui est arrivé. T'as une lutte pour la première place qui se fait entre deux partis qui sont à droite du centre et une lutte à finir pour la troisième place entre deux partis qui sont à gauche du centre. Donc, il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé, qui n'est pas du tout conforme aux prévisions qu'il y avait, qu'on avait. Écoute, c'est peut-être entre autres dû à notre mode de scrutin et au fait que ça devient bien, bien difficile à prévoir une campagne électorale à quatre partis. Les clivages se font pas forcément où on les attend. Mm-hmm. Puis peut-être que je te donnerais une dernière raison, c'est un peu réducteur là, de dire gauche-droite. Qu'est-ce qu'on entend par là, gauche-droite? Habituellement, on dit, bon, c'est des questions plus économiques, plus de justice sociale versus plus de liberté d'entreprise entre la gauche puis la droite. Mais tu as un nouveau clivage qu'on est en train de voir, non seulement au Québec, mais ailleurs, entre qui est axé sur les questions plus identitaires, mm-hmm. plus émotives et non pas les questions socio-économiques. Et peut-être qu'en ce sens-là, c'est là qu'on voit le clivage, parce que entre les libéraux et la CAQ, c'est vrai que économiquement, il n'y a pas de différence fondamentale. Il y a des petites différences, mais ça reste deux partis à droite du centre. Sauf que dans leur rapport aux questions identitaires, ben là, écoute, la différence est assez évidente.
Oui.
Oui. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, effectivement. Pas de raison. La campagne s'est pas déroulée sous un clivage gauche-droite, mais c'est quand la dernière fois que c'est arrivé?
Est-ce qu'on a perdu Carl? Ben oui.
Dans les années 60? Que ce soit
le cas. Bon, ben ça s'appelle la radio en direct. Il paraît que vous m'entendiez, mais moi, je ne vous entendais pas. Alors, de retour avec Paul Journet et Carl Bélanger. Carl, tu es en train de nous livrer ta profonde analyse. J'aimerais que tu la reprennes. Tu es en train de dire que, finalement, l'élection ne s'était pas déroulée comme prévu.
Mais le clivage gauche-droite dont Paul parlait, ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas eu d'élection de ce type-là depuis au moins les années 60 au Québec. Le clivage fédéraliste-souverainiste a fait que les coalitions se sont organisées sur cet axe-là. Mais cette fois-ci, on aurait pu penser que, mais c'est effectivement pas arrivé. Est-ce qu'il y aurait une réorganisation?
C'est arrivé, mais c'est comme s'il y avait eu, à un moment donné, deux élections en une.
Dans l'une, oui. Non, t'as raison. Et la clé maintenant, est-ce que ça va être une élection historique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura un réalignement fondamental en ayant deux principaux partis qui sont effectivement à droite? Et est-ce que le troisième et quatrième parti, en l'occurrence le PQ et QS, devront recommencer à discuter pour pouvoir reprendre un peu plus d'importance? Parce que sinon, ils se marginalisent.
C'est très intéressant la question que tu poses, parce que après tous les coups qu'ils se sont donnés, c'est difficile d'imaginer le Parti québécois et Québec solidaire qui décident de se réasseoir après l'élection pour essayer de former, appelons ça, une espèce d'alliance ou de front uni des progressistes souverainistes. Là.
Ben, ils ont déjà essayé. Écoute, ils ont essayé avant la campagne électorale, puis on a vu ce que ça a donné. On en a déjà parlé cette semaine. On peut y revenir brièvement. On pensait qu'il allait avoir une entente, puis finalement, on a vu que des gens au comité de coordination nationale de Québec solidaire, puis les militants, ils n'étaient pas très, très chauds. Puis finalement, ça a foiré. Écoute, ça fait plusieurs années qu'il y a eu des émissaires du Parti québécois qui essaient de conclure des alliances avec Québec solidaire. Il y a eu Stéphane Bergeron, il y a eu Jean-François Lisée lui-même sous Mme Marois, il y a eu aussi Véronique Yvon. À chaque fois, ça n'a pas fonctionné. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait au lendemain de la campagne électorale. Écoute,
mais c'est parce qu'à un moment donné,
les rapports de force, à moins que le résultat, il y a des gens qui... Ben, c'est parce que je pense que ce que tu allais dire, Bernard, c'est qu'à un moment donné, si c'est toujours les libéraux ou la CAQ qui gagne, il y a des gens à gauche qui vont se réveiller.
Pas tout à fait, parce que
Québec solidaire, à chaque fois, fait des gains, mais eux autres, ils sont très contents. Leur plan fonctionne.
Et pour l'instant, le plan de QS, on a entendu Manon Massé là-dessus, là, le plan de QS, c'est de faire au Parti québécois ce que le Parti québécois a fait à l'Union nationale, c'est-à-dire les marginaliser puis prendre leur place. Mais on est loin de la coupe aux lèvres.
Mais j'allais dire, d'une part, ça peut être long. Puis deuxièmement, j'ai l'impression que c'est le dogme, avec cette logique-là, c'est le dogme qui a préséance sur l'intérêt public. De vouloir à tout prix avoir raison en écrasant puis en éliminant l'adversaire qui a, à mains égards, des points communs avec nous, je trouve ça épouvantable. Je présume pas du choix des gens qui nous écoutent. Là. Moi, ce que je souhaite en démocratie, c'est qu'à un moment donné, on ait des choix qui soient clairs et qui permettent aussi aux électeurs de faire valoir leur point de vue, de faire valoir leur intérêt et qu'ils puissent, à un moment donné, gagner. Sauf que quand c'est toujours la division qui prévaut, puis que le camp progressiste se tire dessus plutôt que de s'organiser pour devenir une alternative valable, intéressante, qui peut aspirer à la victoire, là, je me dis, il y a un maudit problème.
Oui, mais Bernard, l'analyse que tu fais là, c'est l'analyse que le Parti québécois fait depuis plusieurs années, sauf que c'est pas comme ça que le problème est conçu à Québec solidaire, parce que pour plusieurs de leurs militants, la différence entre le Parti québécois puis les libéraux, elle est pas si significative. Ils ont plein de griefs historiques à l'endroit du Parti québécois, puis ils se disent que faire une alliance avec eux, on n'est pas certain qu'on va vraiment avoir des propositions plus en faveur de la justice sociale. Puis l'autre raison pour laquelle Québec solidaire est hostile à ces... Ben, des militants de Québec solidaire sont hostiles à l'Alliance parce qu'eux, ils jouent le long jeu. Eux, ils pensent le long terme, puis ils voient qu'ils sont sur une courbe de croissance, puis leur courbe de croissance, elle passe par le remplacement du Parti québécois. Donc, c'est plus un ennemi à abattre qu'un allié potentiel.
Mais vous savez, comme Paul, tu le mentionnais hier, quand Manon Massé se réclame de René Lévesque, René Lévesque, lui, a fait le plein des forces souverainistes. Il a fusionné avec le Parti de gauche. Le Parti de droite s'est sabordé en sa faveur. Donc, il a créé cette coalition qu'il avait besoin pour aller au pouvoir. Québec solidaire n'est pas en train de créer une coalition, là. C'est pas ça leur objectif. Et après les élections, on aura les deux partis de gauche, souverainistes, qui vont avoir accumulé à eux deux autour de 35% des votes et qui vont se retrouver troisième et quatrième.
Ouais. Moi, juste un bémol, je serais quand même prudent quand des fois on fait l'addition entre les votes du Parti québécois puis Québec solidaire en disant s'il y avait une alliance, on aurait eu les deux votes ensemble. C'est pas aussi simple que
c'est
ça. Mais c'est vrai que, écoute, c'est évident que si les deux étaient ensemble, il y aurait eu plus de votes qu'en restant séparés chacun de leur côté.
On s'entend. On s'entend. Très bien. Justement, tu voulais nous parler du mode de scrutin, Paul.
Ben oui, on n'en a pas beaucoup parlé, mais écoute, ça fait 30 ans qu'on parle de réforme du mode de scrutin, mais on n'a jamais été aussi proche. Parce qu'en mai dernier, il y a eu une entente qui a été signée par les chefs de tous les partis, sauf le Parti libéral. Donc, messieurs Legault, Lisée, Mme Massé et M. Tirel, je crois, le chef du Parti vert, ils sont tous mis d'accord pour changer le mode de scrutin. Et puis, ils sont aussi mis d'accord sur ça serait quoi le nouveau, c'est-à-dire la proportionnelle mixte avec des listes régionales compensatoires. Ça, c'est une grosse différence avec le fédéral. Parce que
Paul, je t'arrête. Là. Ce que tu viens de dire là, c'est complètement du chinois. Là. Concrètement, ça voudrait dire quoi? Là?
En gros, ça voudrait dire, il y aurait moins de circonscriptions au Québec. Tu aurais à peu près autant de circonscriptions au provincial qu'au fédéral. C'est-à-dire, mettons, tu en aurais 78 circonscriptions. OK? Donc, tu divises le territoire du Québec en 78 morceaux. Pour chacun d'eux, tu as un député.
Élu.
Et à ça s'ajoutent des députés qui sont sur des listes dans les régions. Et ils sont élus proportionnellement au pourcentage de vote.
Gens dans leur comté voteraient pour un député quand même. Et là, il y aurait des députés qui s'ajouteraient par la suite pour compenser à l'écart par rapport au vote provincial.
Alors, si on se parle franchement et concrètement, ça pourrait vouloir dire, par exemple, on va arrondir, 75-50. Donc, tu as 75 députés qui sont élus en vertu du mode actuel, OK? Et tu en as 50, dans le fond, qui sont élus selon la proportion des votes que les différents partis ont obtenus dans les régions. Ouais. Donc, c'est sur une base régionale. Et moi, je vais vous dire, à titre d'ancien ministre des institutions démocratiques, on avait essayé de savoir par des simulations qui serait gagnant dans un système comme celui-là. Je sais pas, toi, Paul, est-ce que tu en as fait des simulations? Parce que c'est assez difficile de savoir ce qui adviendrait avec un système comme celui-là. Quel serait le parti qui sortirait gagnant d'un système comme celui-là?
Oui, j'ai pas eu le temps ce matin de concevoir un programme informatique de simulation. Si tu me donnes une dizaine de minutes, je te fais ça. Mais il y a quand même des gens qui sont spécialisés dans les projections de sièges qui ont fait l'exercice. Mais bon, la question qui demeure, c'est est-ce que le mode de scrutin lui-même va changer le choix des électeurs. Donc,
c'est ça, c'est le comportement électoral va changer.
Parce que le vote stratégique diminue avec... Ouais.
Exactement.
Bon, on aurait des gouvernements de coalition, les amis. Là.
Plus
souvent. Aurait, là.
Plus souvent et moins souvent des partis qui auraient 100% du pouvoir en ayant 40% ou moins des votes.
Bon, parlant de mode de scrutin, il y a Justin Trudeau qui avait dit que ce serait la dernière élection avec le mode de scrutin actuel. Il a viré son capot là-dessus. Et non seulement il a viré son capot là-dessus, Carl, mais là, il y a des rumeurs à l'effet qu'il pourrait aussi ne pas respecter la loi sur les élections à date fixe au fédéral. Et plutôt que d'attendre le mois d'octobre 2019 pour les élections telles que le prévoit la loi, les déclencher plus tôt.
Mais il faut dire que cette rumeur-là circule régulièrement depuis au moins 6 mois. Plusieurs analystes et chroniqueurs en ont parlé. C'est véhiculé surtout par des stratèges libéraux, là, un peu comme un ballon d'essai. Quand on pose la question à Justin Trudeau, lui, il est assez catégorique. Les élections auront lieu comme prévu à date fixe. Sauf que la rumeur continue de revenir périodiquement, tellement que lorsque le nouveau directeur des élections d'Élections Canada, Stéphane Perrault, était en comparution au comité des communes cette semaine qui regarde la loi électorale, il s'est fait poser la question, puis il a dit « Nous, on va être prêts pour des élections dès avril. » Donc, si le gouvernement décide d'y aller, parce qu'il y a toujours cette prérogative malgré la loi, l'Élections Canada se prépare et sera prêt.
Mais est-ce que tu es d'accord avec moi? D'abord, on s'entend que si les libéraux décidaient d'y aller avant, c'est parce qu'ils jugent que c'est dans leur intérêt électoral de le faire. Ils ont plus de chance. C'est pas pour aider la démocratie ou pour rendre service à la démocratie, là.
Non.
C'est pour rendre service à leur propre intérêt partisan. Ce qui m'amène à te poser la question, est-ce que Trudeau n'aurait pas un prix politique à payer s'il faisait ça?
Les gouvernements qui ont fait ça dans le passé en ont toujours payé un, mais des fois, le risque en vaut la chandelle lorsqu'on regarde les forces de l'opposition. Là, on dit comme argument, mais avec ce qui se passe avec l'ALENA, si on n'a pas d'accord, on a peut-être besoin d'un nouveau mandat, avoir un enjeu, un débat sur cet enjeu national et de soumettre aux électeurs la vision des partis pour aller chercher un mandat fort pour se tenir debout contre Trump. C'est un peu le calcul qui est fait.
Ah, ce serait ça!
Mais voilà. Si ça, c'est la justification, mais son intérêt stratégique à faire ça, c'est quoi? Est-ce que c'est juste de profiter du manque de la désorganisation du NPD puis de la présumée faiblesse du Parti conservateur?
L'arrivée de Maxime Bernier, et voilà.
Ça me semble assez évident, là.
Ça a été fait dans le passé. Jean Chrétien a fait le coup à Stockwell Day dans les
années
2000.
Oui, mais il n'y avait pas de loi à ce moment-là.
Il n'y avait pas de loi, c'est la différence. Mais la loi, c'est une loi qui est optionnelle, parce que le premier ministre peut toujours aller voir le gouverneur général et lui dire « Le Parlement ne fonctionne plus, on doit dissoudre... »
Oui, mais là, le Parlement, il fonctionne, là.
Mais c'est ça, c'est exactement ça. Donc la justification qui est maintenant véhiculée par les spin doctors du Parti libéral, c'est bien écoutez, l'ALENA, la crise du pipeline, il y a
donner à votre premier ministre un mandat fort pour se tenir debout devant Trump, ça serait
exactement.
Ça l'affaire.
Exactement.
Il plaiderait l'urgence.
L'urgence et aussi l'importance de cet enjeu-là qui crée des problèmes et pourrait créer des problèmes économiques importants.
Ouais.
Donc, le gouvernement a besoin d'un mandat fort et que la population soit derrière lui.
Ouais, moi, j'achète pas ça. Mais en tout cas, on verra bien. Mais je veux juste terminer quand même sur la question que tu souhaites discuter, Paul, dont tu souhaites discuter. Est-ce que si on veut changer le mode de scrutin à Québec, est-ce qu'on doit le faire d'une façon unanime de tous les partis comme le plaide Philippe Couillard? Tu poses cette question-là parce que les trois partis, tu l'as bien dit, la CAQ, Québec solidaire et le PQ se sont engagés à changer le mode de scrutin dans le Parlement qu'on va élire lundi. Moi, je vais te dire, hein, pour avoir piloté quelques changements à la loi électorale. La tradition veut que ça se fasse par consensus. Et par consensus, ça veut dire le gouvernement et l'opposition officielle. Sauf que cette règle-là, cette tradition-là, elle a été établie dans un système où régnait le bipartisme, où il y avait essentiellement deux partis à l'Assemblée nationale. Là, on aura quatre partis et trois d'entre eux se seront fait élire en prenant l'engagement de changer le mode de scrutin. Est-ce que les libéraux auront la légitimité démocratique de bloquer un éventuel changement au mode de scrutin dans le prochain Parlement, Paul?
Ben, écoute, on se base sur un précédent, là. Selon la loi, tu peux changer le mode de scrutin avec une majorité simple. Mais il y a une décision qui avait été rendue en 2011 par le président de l'Assemblée nationale qui disait quand t'es en train de changer les règles du jeu, c'est-à-dire quand t'es en train de jouer avec la carte électorale ou avec le mode de scrutin, il faut, et je le cite, le consensus le plus vaste possible. Mais là, la question qui se pose, c'est quoi le consensus le plus vaste possible? Est-ce que c'est la majorité des partis? Est-ce que c'est le deux tiers, 4/5? Peut-être qu'une solution pour contourner ça, ça serait de faire un référendum.
De faire un référendum pour contourner cette difficulté. Mais en tout cas, c'est certainement ce que les libéraux vont mettre de l'avant si jamais on tente de changer le mode de scrutin sans leur accord. Je vous remercie. Paul Journet, Carl Bélanger, bonne fin de semaine.